Sandra Viscardi.
C'est un premier pont entre les deux côtés de la Sarine sur le dossier électronique du patient. L'association CARA, en charge du projet dans la plupart des cantons romands, va s'allier à deux partenaires alémaniques dès l'an prochain. Objectif, centraliser l'infrastructure technique. Mais Julien Bangarter, le chemin vers un minimum d'harmonisation nationale est encore long.
Pour réunir vos informations médicales sur un dossier électronique, le Parlement a voulu un système de concurrence. Résultat, la Suisse compte aujourd'hui 7 prestataires différents qui peinent grandement à se coordonner. Dans les cantons romands, sauf Neuchâtel, c'est l'association CARA qui gère le projet. En s'associant à deux entités alémaniques, elle espère créer une nouvelle dynamique autour de la plateforme informatique de Bint, une entreprise zurichoise. Dès février prochain, CARA va donc tourner le dos au système de la Poste, qui reste l'interface privilégiée dans la plupart des autres canton. Face à ce développement chaotique, le Conseil fédéral souhaite créer un semblant d'unité, au moins au niveau technique, avec une seule plateforme nationale. Le Parlement devrait se prononcer début 2026, avant une probable mise au concours. À voir si un peu plus d'harmonie rendrait le projet plus attractif. Actuellement, seuls 110 000 patients ont ouvert un dossier électronique, soit à peine plus d'1% de la population. Et les résistances restent nombreuses entre des médecins qui jugent le système trop complexe et des patients soucieux de protéger leurs données.
Jusqu'ici, la Suisse n'est pas touchée par les mesures prises par l'Allemagne à ses frontières. Propos hier de Beat Jans, notre ministre de Justice et Police, après avoir rencontré le ministre allemand de l'Intérieur. Berlin, rappelons-le, a réintroduit les contrôles aux frontières pour lutter contre l'immigration. Comment mieux lutter contre le deal de rue et la consommation de drogue dans l'espace public? Depuis plusieurs mois, la question inquiète les villes vaudoises. Elles appellent à l'aide, elles dénoncent une situation hors de contrôle. Alors hier soir, Yverdon a réuni des représentants du canton, de la police et de plusieurs communes pour un échange public et la recherche de solutions concrètes. Mais une actualité est venue bouleverser la tenue de cette rencontre, puisque hier le ministère public vaudois a annoncé la mort d'un homme dans les locaux de la police lausannoise après une arrestation pour soupçon de trafic de drogue. Christian Weiler, municipal yverdonois, précise que l'objectif de la réunion était avant tout d'informer sur la consommation qui augmente pour le crack et la cocaïne.
On vit des drames dans cette situation, mais le drame et la misère humaine font partie de ce terrible dossier. On a fait le programme tel qu'il était prévu sans cacher que cet événement tragique s'était déroulé. Donc l'idée, c'était donner de l'information pour que les gens puissent prendre connaissance de la gravité, de l'immensité du problème et de ce qui se met en place. La répression est un des volets. Ce que je peux assurer, c'est que nos policiers sont maintenant bien formés, qu'on n'est pas sur une police qui va casser du dealer. On est dans une police beaucoup plus intelligente, beaucoup plus sensible, qui agit avec précaution et proportionnalité.
Christian Weiler avec Thibaut Clémence. Une nouvelle poussée de fièvre dans les campagnes françaises. Oui, les agriculteurs manifestent depuis hier matin pour soutenir une loi controversée qui a été débattue à l'Assemblée nationale. Elle promet de simplifier leur quotidien, mais Benjamin Louis, elle soulève une levée de boucliers chez les écologistes.
Un convoi de tracteurs devant l'Assemblée nationale, des opérations escargots. Depuis hier, les syndicats agricoles français sont mobilisés pour défendre la loi Duplon. Ce texte porté par un sénateur agriculteur entend lever les contraintes qui pèsent sur la profession en assouplissant certaines règles environnementales. Parmi les mesures les plus contestées, il y a la réintroduction temporaire de l'acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. Ces produits sont redoutés pour leur effet sur les abeilles. Ils les désorientent, affaiblissent les colonies et menacent la pollinisation. Interdit en France depuis 2018, l'acétamipride reste autorisé ailleurs dans l'Union européenne. Alors les filières de la noisette et de la betterave française le réclament, faute d'alternative. Mais les écologistes, eux, parlent d'un véritable tueur d'abeilles. Face aux 3500 amendements déposés par la gauche au Parlement, la majorité a choisi d'écourter le débat dans l'hémicycle. Hier soir, une motion de rejet a été adoptée avec l'appui du RN, une façon de court-circuiter les discussions en séance et de renvoyer directement le texte en commission mixte paritaire, une manœuvre qualifié de 49-3 déguisé par les opposants. Prochaine étape à huis clos donc, entre députés et sénateurs. Benjamin Luis, RTS, Paris.
Vous aimez les paillettes, oui, ça brille, elles sont festives, elles sont appréciées pour leur décoration, pour le maquillage, pour les projets artistiques, mais elles sont loin d'être inoffensives. Zoé Decker, une récente étude révèle qu'elles pourraient bien aggraver la pollution marine et même perturber la vie sous-marine.
Elles n'ont l'air de rien et pourtant, les paillettes en plastique agissent comme des accélérateurs chimiques dans l'océan. Une récente étude menée par le Trinity College de Dublin révèle même qu'elles favorisent la formation de cristaux, de carbonate de calcium, un composant essentiel des coquilles et des squelettes marins. Sous l'eau, les paillettes attirent les ions, déclenchent la cristallisation du carbonate de calcium et se fissurent. Le résultat, c'est que les paillettes relâchent encore plus de microplastiques, un cercle vicieux invisible à l'œil nu, mais bien réel. À terme, cette réaction pourrait perturber la calcification des coraux, des moules, des oursins et même du plancton. Chaque année, près de 4000 tonnes de paillettes sont rejetées dans l'environnement en Europe. Alors pour limiter les dégâts, l'Union européenne a lancé une interdiction progressive. Depuis 2023, les paillettes en vrac sont interdites à la vente. L'année prochaine, ce sera au tour des gels douches. Puis, pour les rouges à lèvres, les vernis à ongles, l'échéance est fixée à 2035. Alors, certaines marques proposent déjà des alternatives dites biodégradables, à base de cellulose végétale, de mica ou de verre. Mais selon plusieurs études, ces versions ne sont pas totalement inoffensives. Elles peuvent nuire aux algues, perturber les plantes aquatiques et mettre longtemps à disparaître.
Les œuvres de la Fondation Collection Burley restent accessibles au public en tant que prêt permanent au Kunsthaus de Zurich. La Société des Beaux-Arts, propriétaire de la collection du musée, se charge, elle, de la provenance des tableaux. La Fondation Burley et la Société des Beaux-Arts ont convenu hier des lignes directrices sur le traitement de l'art spolié. Pas mal de soleil du Léman au Valais, plus de grisailles ailleurs, 21 degrés aujourd'hui. Demain, soleil du Léman au Valais et aux Préalpes, nuages ailleurs, puis précipitations à partir du nord-ouest. Il fera 22 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Bonjour, c'est Sérène Regard. Chaque samedi à 19h30, je vous emmène à l'Opéra. Les spectacles du Grand Théâtre de Genève et ceux de l'Opéra de Lausanne, les portraits lyriques, la nouveauté du disque et les grandes productions des théâtres européens nous invitent à l'écoute de l'actualité vocale et de la place toujours singulière et essentielle du théâtre chanté. À l'Opéra, c'est tous les samedis à 19h30 sur les ondes de la radio-télévision suisse Espace 2 et sur l'application Play RTS.
Musique Matin, Yves Bron.
Et la musique de Sibelius dans les nouveautés avec une de ses deux pièces pour violon et orchestre, opus 77 du compositeur finlandais, enregistré récemment par Nicolas Colon. On l'écoute depuis quelques jours maintenant dans les nouveautés. Très beau disque Ondine avec l'orchestre symphonique de la radio finlandaise et l'invitation de Christian Tetzlaff au violon. Il a une partie soliste d'ailleurs dans cet extrait, donc Laetere Anima Mea, cantique, extrait de l'opus 77, deux pièces pour violon et orchestre de Jean Sibelius.
Thank you.
Christian Tetzlaff au violon, l'orchestre symphonique de la radio finlandaise sous la direction de Nicolas Kollon, musique de Jean Sibelius ici avec la première des deux pièces pour violon et orchestre, l'opus 77, Laetere Anima Mea, extrait de ce très beau disque qui vient de paraître chez Ondine, consacré entièrement à la musique de Sibelius avec le signe blanc, la suite pour orchestre, on l'écoutait hier avec plusieurs sérénades et également la cinquième symphonie du même Sibelius. Une autre nouveauté, on change de style, on change d'époque, une musique difficilement classable en fait, mais bon, vu qu'il n'y a plus de disques et plus de magasins de disques, il n'y a plus de bacs avec des styles différents, donc c'est moins important. Cette musique, on la doit à un beau duo, actif dans le jazz, mais également dans les musiques du monde et la musique classique. C'est Vincent Segal, le violoncelliste, qui est en duo avec Stéphane Keretsky, contrebassiste. Le disque, eh bien, s'intitule Ponticello. Il vient de paraître chez Fuga Libero, un disque en duo principalement, mais avec de temps en temps la participation d'une troisième musicienne, c'est R.L. Besson, trompettiste, qu'on écoute donc ici dans un extrait de ce disque, ça s'appelle Elsa. Thank you. Trio ici avec R.L. Besson, la trompettiste, Stéphane Keretsky, le contrebassiste et Vincent Segal, le violoncelliste. Elsa, c'est le cinquième titre de ce disque Ponticello qui vient de paraître chez Fuga Libera. Encore un peu de musique dans les nouveautés avec la musique de Ferdinand Ries, compositeur allemand qui a vécu à cheval entre les 18e et 19e siècles. Il faisait probablement du cheval également. On écoute ici le final de sa troisième symphonie en opus 90, en mi bémol majeur, enregistré donc récemment par le Tapiola Sinfonietta sous la direction de Janne Niesonen.
Thank you.
Et voilà, c'était le dernier. J'en attendais encore un parce que la plage du disque était un peu plus longue que prévu. Mais on était bel et bien à la fin de cette troisième symphonie en mi bémol majeur, l'opus 90 de Ferdinand Ries, enregistré donc récemment par Jan Nisonen à la tête du Tapiola Sinfonietta. Musique de Ferdinand Ries. Donc il y a deux symphonies sur le disque, la huitième et la troisième. C'est un disque qui vient de paraître il y a quelques semaines, disons, sous le label Ondine. 8h25 minutes sur RTS Espace 2 dans Musique Matin. Nous ouvrons un livre.
Quid non quertz? Sylvie Tanet.
Adrien Bosque publie un livre sur Tristan et Golf, mythique auteur du Seigneur des Porcheries. Dans L'invention de Tristan, c'est le titre, le romancier-éditeur retrace le destin tragique de ce jeune Américain qui, dans les années 90, faisait la manche à Paris, était le petit ami de la fille de Modiano, ne vivait que pour l'écriture et s'est suicidé à 33 ans. Adrien Bosque rend hommage à ce roman culte qui peut nous apprendre beaucoup, nous dit-il, sur l'Amérique d'aujourd'hui. Adrien Bosque.
C'est d'abord une lecture qui m'a construit aussi. C'est une des premières lectures de littérature américaine que j'ai eues en arrivant à Paris. J'avais pas une grande culture de la littérature américaine, voire pas. Et donc c'est une étrange manière d'entrer dans la littérature américaine parce que c'est un livre qui est à part, qui ne s'inscrit pas dans le grand roman américain de l'époque, disons de la Jonathan Franzen, des Corrections qui est à peu près au même moment, ni au postmodernisme de Pynchon ou de Foster Wallace. Donc c'est vraiment un livre qui est complètement iconoclaste et anachronique dans l'histoire américaine. Donc j'y suis rentré par ça. Mais je me rappelle de la déflagration qu'a été la lecture. Et je l'avais un peu mis de côté, puis je suis retombé sur le livre il y a 6-7 ans. Et je l'ai relu en me demandant s'il tenait la route. Il tenait vraiment la distance. J'ai vu d'autres choses que je n'avais pas vues, y compris sur l'extrême acuité du regard aussi sur une Amérique qui est celle qu'on voit s'avancer désormais. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour comprendre ou entendre ou se terrifier de l'Amérique de Trump, de la Pennsylvanie qui bascule, de la folie aussi du terreau américain et raconté par un de ses fils rejetés, qui est Golf. Quand j'ai compris ce qu'il y avait derrière le livre des Golf et aussi ce qu'il y mettait de lui-même dans le livre, ce qui ne m'apparaissait pas d'emblée, hein, c'est un livre qui peut paraître qui est un grand livre d'imagination aussi, mais en fait j'ai vu à quel point il était un mime de son histoire, un mime de son histoire personnelle, un mime de son histoire familiale. J'y ai vu aussi cette dévoration de l'écriture et un sujet qui pour moi était important, qui est-ce qu'un livre peut tuer ? Parce que c'est un cas limite sur la littérature.
C'était Adrien Bosque qui nous parlait de L'invention de Tristan, son nouveau livre publié chez Stock. L'entretien intégral est à découvrir sur RTS Culture et dans Quertz, la newsletter livre de la RTS, distribuée dans votre boîte courriel tous les vendredis sur abonnement gratuit.
I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me
And I realized you probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Ça se termine comment, comme ça commençait, mais il y avait encore la fin du Quid dans Quertz pendant l'introduction. 50 Ways to Leave Your Lover, un des tubes de Paul Simon. Donc Paul Simon tout seul, non pas avec son complice de longue date, évidemment. Art Garfunkel. La voix, maintenant une autre voix, la voix magnifique de la mezzo-soprano Marina Viotti, dans un enregistrement réalisé pour Aparté avec Liangeli de Genève sous la direction de Stephen McLeod. On est ici dans Mithridate, roi du pont, l'opéra de Wolfgang Amadeus Mozart. Et j'en profite pour vous annoncer quelques dates de Marina Viotti en Suisse romande ces prochains temps. Elle sera notamment le 8 juin prochain à Monté dans un récital dans le cadre du Festival des Ondes. Il y aura Gabriel Bianco dans un programme chanson et classique franco-espagnol, et puis également le 29 juin prochain au Lavo Classique, Marina Viotti avec Rossini et Jan Schulz. Rossini, c'est le compositeur, Jan Schulz, c'est l'instrumentiste. On écoute donc cet extrait de l'opéra seria de Mozart, Liangeli de Genève, Stephen McLeod, Marina Viotti.
Venga pur, minacce e frema, lì la cavi. sostegno al suo furore, questo cor non cederà. No, no, questo cor non cederà.
La voix de Marina Viotti, mezzo-soprano, Lee Angeli de Genève, Stephen McLeod à la tête de l'ensemble, un disque aparté qui était paru l'année passée en 2024, Mithridate, l'opéra Seria de Mozart. Je vous rappelle les dates de Marina Viotti ces temps-ci en Suisse romande, parce qu'elle tourne quand même pas mal internationalement, on va dire. Le 8 juin, elle sera à Monthey, le 29 juin au Lavo Classique, et puis également à Zurich, ça c'est pas la Suisse romande, entre le 28 juin et le 12 juillet. Et Marina Viotti, donc, dans les Contes d'Hoffmann, d'Offenbach, donc à l'Opéra de Zurich. Des billets, comme tous les jours, à peu près à la même heure, des billets pour le Montreux Jazz Festival, un concert qui va se dérouler le mardi 8 juillet à 20h30 sur la scène mythique, la scène du casino de Montreux. C'est là qu'ont joué tous ces grands artistes de jazz pendant des dizaines d'années. Et deux invités, là, on est plutôt dans le rhythm and blues, tendance hip-hop, avec des concerts de Leon Thomas, qui partage d'ailleurs le nom avec un autre artiste, mais bien plus ancien, des années 60. Leon Thomas, qui est une valeur montante de la musique R&B. Il y aura également le concert de Yoria Smith. Donc, une seule adresse pour ce concert, c'est musiquematin@rts.ch. N'oubliez pas d'inclure vos coordonnées postales. Thank you. Pièce de viol de Mara Marais avec l'ensemble Acheron. Forêt maintenant avec un beau duo, Renaud Capuçon au violon, Nicolas Angelisch au piano, troisième mouvement d'une sonate, la deuxième en mi mineur.
Thank you.
Nicolas Sengalich au piano, Renaud Capuçon au violon, le final de la deuxième sonate de Forêt. Une chronique maintenant avec notre correspondant parisien, David Christoffel, qui nous parle de la création d'un spectacle composé de deux œuvres de Georges Bizet, l'Arlésienne et le Docteur Miracle. C'était samedi dernier au Châtelet et la version du Docteur Miracle, mise en scène par Pierre Lebon, va prendre en Suisse la route lyrique de l'Opéra de Lausanne. C'est à partir du 20 juin. On pourrait se demander comment une production pour la grande scène du Châtelet va pouvoir se promener sur des scènes, disons, plus restreintes. La réponse avec notre correspondant, justement, David Christoffel. Il était au Châtelet samedi et nous explique comment le metteur en scène, Pierre Lebon, s'y est pris.
C'est très simple. Au lieu de se demander comment une production créée sur la grande scène parisienne du Châtelet peut tenir dans des configurations plus resserrées, eh bien, il suffit de retourner la question et de se dire que le metteur en scène, qui a aussi pensé les décors et les costumes, a raisonné à l'inverse, en se disant « et pourquoi pas mettre sur la scène du Châtelet une sorte de théâtre dans le théâtre, un décor qui va de ville en ville, comme un théâtre de foire qui est justement appelé par l'intrigue du Docteur Miracle ». Puisque en partenariat avec le Palazzetto Bruzane, l'idée était bien de se dire « puisque c'est le 150e anniversaire de la mort du compositeur d'opéra français le plus joué », eh bien, c'est l'occasion rêvée de monter l'opéra de Bizet le moins joué, comme l'a tout de suite reconnu Pierre Lebon, que j'ai pu rencontrer quelques jours avant la première.
Oui, c'est vrai. C'est le premier opéra pour lequel il est à peu près connu. Quand Bizet compose Le Docteur Miracle, c'est une réponse à un concours qu'avait lancé Offenbach pour faire connaître la musique française et pour la faire rayonner dans le monde, puisque c'était à l'occasion un peu avant ou un peu après l'exposition universelle. Il sait qu'il y a beaucoup de monde qui va venir en France flâner sur les grands boulevards. Et puis lui, Offenbach, il veut revendiquer une musique à la française nouvelle. Et puis pour ce faire, il organise un concours pour jeunes compositeurs, dont Bizet arrive ex aequo premier avec Lecoq, et ils composent donc tous les deux sur le même livret, qui est une farce, et donc c'est qui va être joué une vingtaine de fois, qui va pas rencontrer un grand succès, mais ça va être en tout cas la première pièce qui va être vraiment jouée de Bizet.
Et on y reconnaît un bout d'Offenbach dans du Bizet, ou ça reste à plein régime du Bizet ?
Alors Bizet, il est assez démonstratif dans cette œuvre, comme c'est une œuvre de jeunesse, il essaie d'un peu de convoquer tous ses maîtres, et il essaie de montrer un panel de ce qu'il peut faire avec des envolées très lyriques et un côté un petit peu plus bouffe pour l'ouverture. Donc on a les prémices de quelque chose qui va se dessiner dans sa carrière, mais on est vraiment dans un éventail assez large de ce qu'il va pouvoir proposer plus tard.
Le fait que vous soyez impliqué à plusieurs étapes du spectacle, à la fois dans le décor, dans les costumes, dans la mise en scène, au plateau, ça aide justement à lui donner un cachet d'autant plus bouffe.
Oui, et puis le sujet qui est traité, c'est le Docteur Miracle. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la figure du charlatan, qui est hautement une figure politique de la vie, et puis qui installe tout de suite un style de jeu, de théâtre de tréteaux, un théâtre de foire, qui est dans l'invective, et puis qui est dans un rapport très direct au spectateur. Donc du coup, on joue un peu cette pièce comme une équipe de charlatans qui vient de ville en ville pour aller prodiguer la bonne parole, en tout cas pour vendre de la médecine. Alors nous, on n'a rien à vendre, mais peut-être que l'art, peut-être que la musique peut guérir les âmes. En tout cas, c'est ce qu'on va tenter de faire avec les spectateurs quand on passera en Suisse bientôt, et puis là, ce qu'on va faire au Châtelet. Oui.
Et alors, ça se chante d'une certaine façon, la charlatanerie.
Oui, ça se chante d'une certaine façon. Et puis surtout, ce qui est très particulier, ce qui demande des artistes un peu tout-terrain, c'est qu'on passe du parler au chanter. C'est un art qui demande beaucoup d'exigences, parce que les placements de voix, ils peuvent être compliqués. Il faut amener aussi des personnages. Nous, on est dans un théâtre, comme je le disais, de tréteau, un théâtre de foire. On est très très proche de la Commedia dell'arte, parce que les charlatans s'associaient beaucoup à des compagnies de théâtre pour jouer des petites farces et pour faire venir un maximum de personnes pour les écouter. Donc c'est pas un théâtre vulgaire, mais c'est un théâtre qui peut être un peu rentre-dedans parfois. Donc oui, il y a une façon de jouer la charlatanerie qui est très directe. Oui.
Alors là, on a le décor sous les yeux. Les tréteaux sont sur scène, ce qui, quand on est sur la scène du Châtelet, crée une espèce de mise en abîme. Vous faites du méta-théâtre de foire.
Pour le décor du Docteur Miracle, oui, c'est vrai que c'est un empilement de caisses sur lesquelles vont jouer à la manière des charlatans du coup les chanteurs comédiens. Les charlatans, ils donnaient aussi à entendre, ils montaient un peu au-dessus de la foule pour pouvoir mieux leur parler. Il se trouve que de temps en temps ils montaient sur des échafauds, et c'est assez drôle de se dire que là où on donnait la mort, on prodiguait la vie. Et donc on a récupéré un peu cette chose, voilà, comme je disais, un peu comme une troupe de charlatans qui vient poser ses caisses, poser ses trois tréteaux, et puis jouer n'importe où. Il est vrai que c'est un spectacle aussi qui est tout terrain, parce que on le joue à la fois dans des grands théâtres, dans des écrins un peu comme celui du Châtelet, et puis on le donne aussi dans des formes qui sont itinérantes parfois, avec un petit orchestre, une réduction pour orchestre de 11 instrumentistes. C'est ce qu'on va faire notamment en Suisse avec l'Opéra de Lausanne, qui va déployer autour de Lausanne pendant la route lyrique. Ça s'appelle cet été, donc à partir de juin jusqu'à mi-juillet.
Si je comprends bien, donc vous avez été à fond dans l'esthétique bouffe. À quel endroit est-ce que peut-être la partition, parce qu'elle est de Bizet, vous a quand même retenu dans cette direction?
Je pense que en tout cas il y a une belle dualité qui se fait entre cette proposition et celle de Bizet. Bizet, il va à fond dans le lyrisme, et il y a un aspect peut-être comique qui va s'installer, d'autant plus qu'on est dans quelque chose de très très chanté, très très délié, très lyrique effectivement, et puis d'avoir quelque chose d'un peu plus pompeux et direct, enfin pas pompeux, au contraire, dans quelque chose de plus hard. Et j'aimais bien la dualité entre les deux, et c'est peut-être ce qui crée un petit peu une dissension sans pourtant la trahir, et qui crée l'effet comique. Ouais.
Mais il n'y a pas que de la comédie, il y a aussi des moments plus, je sais pas, purement musicaux, plus.
Oui, bien sûr, oui, il y a des très beaux airs, notamment l'air de Lorette. Il y a un air magnifique, c'est du Quatuor, qui dure une dizaine de minutes et qui est un peu le centre névralgique de la pièce, qui est le Quatuor de l'omelette, où chacun chante la joie de cuisiner ou de manger une omelette, et qui s'avère dégoûtante. Et donc la musique passe de très joyeux à quelque chose de très sombre, et on arrive presque après un quatuor verdien tout à la fin, quand les déguisements tombent et quand on arrive au dénouement. Oui, finalement, il y a plein de couleurs qui peuvent se déployer, et c'est dans cette joie qu'on a un peu de monter la pièce, c'est-à-dire de voir un éventail de styles de jeu et d'écouter différents styles de musique aussi.
Et voilà, c'est le Docteur Miracle de Bizet qui sera au programme de la route lyrique à partir du 20 juin. Merci à David Christoffel pour cette chronique. Une annonce à vous faire avant de terminer l'émission. Si vous montez à la montagne, eh bien, il va faire beau, et il y a un festival de musique qui a commencé hier, qui se déroule pendant toute la semaine. C'est le Festive Ascension, la musique au sommet. Ça se déroule à Ninda, donc en Valais. C'est l'initiative de Sidonie Bougamon, qui est soliste, chef d'attaque des seconds violons à l'OSR, donc qui a créé ce festival qui est gratuit, avec un chapeau pour les artistes quand même. Il y a plusieurs concerts encore à annoncer, notamment jeudi à 17h dans l'église d'Haute-Ninda. Sidonie Bougamon sera au violon avec Stéphanie Gourga, Yumi Kubo, Hubert Geiser et Gabriel Esteban pour la musique de Forêt. Et puis également le vendredi 30 mai, un duo avec Jeanne Golu et la flûte de Pan, Alessio Nebbiolo à la guitare. C'est donc le festival Festive Ascension à Ninda, avec un extrait que je vous propose d'écouter, une petite minute d'une œuvre qui a été jouée, c'était hier, une œuvre de Genji de Daron Hagen, un quatuor à cordes avec koto. Quelques notes de quatuor à cordes avec koto pour vous inviter à vous rendre à Haute-Ninda, à Ninda, pendant cette semaine, festival de musique de chambre, le Festive Ascension, à découvrir donc. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Juste après les informations, c'est Juliette Granier. Et puis demain, Sidney Fierro dans Musique Matin. RTS Espace 2, il est 9h.